Bonjour à tous. Et voilà, nous poursuivons cet après-midi littéraire avec la deuxième table ronde de la journée, donc la présence des ancêtres. Et je vais laisser Raphaël Thierry, le modérateur, nous présenter les auteurs et modérer cette table ronde qui, je pense, va être passionnante. Merci Raphaël.
Merci Elisabeth et bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui arrivent et ravi de vous retrouver pour ceux que j'ai déjà rencontrés l'an dernier. Très heureux de faire la connaissance ou de rencontrer enfin des auteurs que j'avais hâte de découvrir de visu autour de cette belle thématique à laquelle qu'on va aborder ensemble. Mais avant toute chose, je voulais remercier le festival et dire à quel point je suis sensible à ce festival Livre d'ailleurs, qui est presque un miracle, je trouve, par les temps d'aujourd'hui, en termes de diversité, de biodiversité. Donc je veux vraiment avoir un tout petit mot pour remercier les organisateurs, la présidente du festival cette année, bien sûr, l'association Diwan en Lorraine, pour ce travail phénoménal qu'ils font et qui fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'était juste un petit mot aparté. Ceci dit, je pense qu'il est important de rentrer dans le fond de notre sujet qui nous réunit, cette fameuse thématique de cette présence des ancêtres qui donne effectivement une profondeur au temps présent. En préparant la table ronde, je vous avoue que je me suis posé la question. Le terme ancêtre en soi, ben, on croit le connaître. C'est un terme qui est a priori spontanément lié au passé. On pense spontanément aux traditions, évidemment, sous une forme d'héritage peut-être. Mais d'une autre manière, on a parfois tendance à l'opposer un peu à la modernité, au présent, en tout cas peut-être spontanément. C'est un raccourci qu'on peut faire. Et donc, en préparant notre discussion, ben, j'ai été frappé par la dimension polysémique du terme de l'ancêtre. L'ancêtre, c'est évidemment l'aïeul, mais c'est aussi le fondateur. C'est parfois le précurseur. C'est celui qui a pu montrer la voie. C'est celui qui est à l'origine d'une généalogie. Cette généalogie, elle peut être rompue, oubliée, déplacé, parfois éloigné. Des fois, l'ancêtre est à l'origine d'une rupture aussi. En fait, l'ancêtre, c'est riche, c'est divers, c'est vaste. On a donc la chance de discuter aujourd'hui avec trois auteurs d'univers totalement différents, de langues différentes, qui nous permettent de réfléchir à ces différents niveaux, qui nous parlent de reconnexion, qui nous parlent de lignage, qui nous parle d'une histoire organique, d'une histoire qui est fondamentale, qui est philosophique, qui est intime, qui est généalogique. Ils touchent au biologique, à l'organique peut-être, au symbolique dans leurs œuvres. Et ils nous posent une question que j'ai trouvée en soi peut-être vertigineuse. D'où est-ce qu'on vient? Et si on déplace un peu la question, qu'est-ce qui nous a menés là où nous sommes? Donc, je voudrais avancer maintenant en présentant brièvement chacun et puis peut-être s'attaquer à vos livres. Je vais me permettre de commencer par Jennifer Nansubuga Makumbi. Vous venez d'Ouganda, mais vous partagez votre temps entre l'Ouganda et le Royaume-Uni. Je dois dire que je suis très heureux que vous représentiez aussi cette littérature d'Ouganda, un très haut lieu des littératures dans le continent africain, depuis une fameuse conférence en 1962 à Makerere. C'est un lieu qui, pour moi, est mythologique. On a eu la joie dans ce festival il y a quelques années de rencontrer un jeune auteur ougandais, Paul Kizakiye, qui est un auteur de science-fiction. Et j'ai le plaisir de travailler avec une autrice que vous connaissez peut-être, Goretti Kyomuhendo, qui est aussi originaire de Kampala. Et c'est pour vous dire à quel point je suis sensible à cette présence d'une grande autrice comme vous. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'aborder votre roman La première femme, qui est traduit pour les éditions Métellier en langue française. Mais avant ça, vous avez aussi publié le roman Kintu, qui a été salué, qui a eu de nombreux prix. Vous avez aussi publié un recueil Manchester Happened, qui n'est pas traduit en français, pour autant que je sache, pour le moment. Et à partir de ce premier roman en langue française, La première femme, je voudrais vous poser une première question issue du texte. Vous écrivez, je vais le dire en anglais avant de le traduire en français. Stories are critical. The minute we fall silent, someone will fill the silence for us. Les histoires sont essentielles. Dès que nous nous taisons, quelqu'un parlera à notre place. J'aimerais que vous puissiez nous parler de cette fameuse phrase que je trouve assez forte, qui nous dit quelque chose en lien avec ce roman.
Thank you very much for the introduction. I had a few words. I was very happy with myself because I could catch a few words from French. So the idea, I was saying that I caught a few words, he said, and a few names, and I was feeling very happy with myself. Finally, I can understand French. The idea that when we fall silent, someone fills the silence for us has been for us, with us for a long time. Now, the first example I can give you is that for a long time, what the world knew about Africa was not what Africans were saying. For a long time, the world knew Africa from the point of view of the colonizers and the missionaries and some of the slave traders. So when Africans started to write and you started to read the books, the difference between what you knew and what Africans were writing was so different.
Donc la question du silence est essentielle, parce que quand on arrête de parler, effectivement, quelqu'un peut raconter l'histoire à votre place. Et si je prends, je suis désolée, j'avais plus de voix hier, donc c'est un petit peu dur encore aujourd'hui. Et si je prends l'exemple de l'Afrique, pendant très longtemps, finalement, l'histoire qu'on a racontée de l'Afrique, c'est l'histoire vue du point de vue européen. Donc l'histoire qu'ont raconté les Européens sur l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique que nous, en tant qu'Africains, on connaissait.
So because Africa was silent, someone was filling in for us. But it's the same with women. Again, for a long time in Africa, men were writing history, the history of Africa. And therefore, the history was from a male point of view. It's only recent that African women have started writing that now we are going back and rewriting history in our novels from a women's point of view. And we are discovering that actually our communities, our countries, our societies were created by women as well.
Donc comme les Africains se taisaient, les Européens ont raconté l'histoire à leur place. Et il se passe exactement la même chose avec les femmes, puisque pendant des années, des siècles, ce sont les hommes qui ont écrit. C'est l'histoire des hommes, le point de vue des hommes qui a été donné. Et on commence simplement à se rendre compte, petit à petit, avec des femmes maintenant qui commencent à écrire, à donner leur propre point de vue, que finalement ce sont les femmes qui ont créé la société.
So I think silence is dangerous, very dangerous to the person who is silent.
Et donc je pense que le silence est dangereux, très dangereux pour ceux qui se taisent.
Merci beaucoup. On va revenir justement sur ces silences de l'histoire dans votre roman, qui fait émerger justement une autre histoire qui a été peut-être volontairement mise de côté et donc que vous faites émerger autour du personnage principal. Donc on va y revenir, mais avant ça, Je vais passer vers ma voisine, Seloua Loust-Boulbina. Je suis très heureux qu'on se rencontre enfin parce qu'on a déjà eu des discussions et j'ai le plaisir de travailler avec les éditions Présence Africaine qui ont publié un de vos livres. Et je suis très touché par votre travail qui est un travail qui me fait énormément réfléchir et qui touche à tellement de champs qu'on a tendance parfois à distinguer, à séparer. Et c'est ça que je trouve très sain, justement, dans ce travail que vous mettez en œuvre. Et aujourd'hui, on va évidemment se concentrer sur ce livre publié par les fantastiques éditions Zulma, « Sortir de terre, une philosophie du végétal ». Rien que le titre, je le trouvais déjà extraordinaire. Mais juste pour, en quelques mots, pour résumer votre parcours vaste, riche, ça serait déjà difficile de vous définir, mais si je dirais que vous êtes philosophe, vous êtes politiste, vous êtes agrégé de philosophie, vous travaillez à un programme autour de la décolonisation des savoirs. Moi, je suis très sensible à ces questions de décolonisation des savoirs. Donc, vos travaux portent effectivement sur des questions coloniales, postcoloniales, la question des circulations des savoirs entre l'Europe et l'Afrique. Vous êtes aussi très sensible aux questions de l'édition dans les pays des Sud, je le souligne, c'est un lien fort avec ce festival. Entre autres ouvrages, donc j'évoquais ce livre publié par Présence africaine, L'Afrique et ses fantômes, mais je pourrais aussi parler de malaise dans la décolonisation. Et puis globalement, vos recherches, vos travaux, vos réflexions touchent aux questions d'héritage de la colonisation et les façons de renouveler les pensées contemporaines à partir de cet héritage. Cette philosophie du végétal, elle m'a fasciné, elle m'a bousculé. Je ne m'attendais pas à ce que j'y ai trouvé, dans le très bon sens du terme. J'ai trouvé intéressant que vous fassiez appel à tellement de signes, on va revenir à ces symboles qu'on voit dans notre quotidien et pourtant on n'y prête pas toujours attention, ce lien à la nature, dans notre inconscient, dans nos imaginaires, il est fort, mais on ne le touche pas toujours du doigt, ou en tout cas on ne le pense pas. Et là, vous nous l'expliquez d'une certaine manière à partir de références, d'exemples historiques. Donc on va revenir sur ça, mais je voudrais, peut-être pour démarrer la discussion, parler de cette peut-être note d'intention. Vous parlez de ce que vous avez peut-être, ce que vous n'avez pas voulu faire, en tout cas, dans ce livre. Vous écrivez « Je n'ai pas eu l'intention d'élaborer une théorie du végétal en lui-même. Je me suis intéressé aux rapports, liens, liaisons que les êtres humains ont tissés avec le végétal à partir d'un phénomène banal, quoique extraordinaire. La végétation, plus ou moins mystérieusement, sort de terre. Ce phénomène qui frappe autant l'imagination que l'intellection mérite d'être étudiée de plus près, non sous l'angle de la phytosociologie ou de la botanique, mais au regard de l'anthropologie et de la philosophie. Est-ce qu'il serait possible peut-être de parler de cette intention de ce livre qui sort des sentiers battus, clairement ?
Merci. Merci pour la question. Et puis, je suis heureuse aussi d'être ici avec vous. Alors, la première chose que je dirais très rapidement pour qu'on comprenne, en fait, ce livre, c'est qu'une colonie procède toujours par la destruction de la généalogie. C'est-à-dire que des populations qui ont des familles, des aïeux, des enfants, etc., des cousins, sont considérés, je le dis rapidement, comme une masse informe. C'est une expression qu'on utilisait en Algérie, une masse informe de primitifs. Donc, ça veut dire que l'ancestralité, elle est d'autant plus importante qu'elle a été niée et qu'elle n'a pas pu être dite. Il a été question du silence immédiatement avant moi. Et parce que le silence est imposé, en fait. L'immobilisation, le silence se sont colonialement imposés. Et c'est ainsi que l'on crée des Africains qui n'ont pas d'histoire, qui ne sont que dans le temps et qui répètent sans arrêt, puisque précisément la lignée n'a pas été reconnue. Donc, d'où l'importance, bien entendu, de l'ancestralité. Alors, cette ancestralité, on peut la voir de multiples manières. Et on peut l'avoir aussi inscrite dans la relation végétale. Cela paraît bizarre, mais je vais commencer par un exemple. C'est l'exemple du 1er novembre. En général, c'est le 1er novembre, même si en réalité, ça concerne le 31 octobre. Mais nous apportons des fleurs au cimetière de façon régulière. Nous apportons des fleurs au cimetière parce que justement, le cimetière... avec ces fleurs, pardon, on entre dans un autre rapport au temps, c'est-à-dire on entre plus dans la cyclicité, le fait que les choses recommencent, elles vont renaître d'une autre façon, etc., comme dans une famille d'ailleurs. Et du reste, on détermine aussi les plantes en fonction des familles. Et donc, au lieu d'être dans un temps linéaire, ce temps linéaire, il n'est pas seulement le nôtre, il est le nôtre, mais il n'est pas seulement le nôtre parce que nous avons des pratiques ritualisées. Je donne un deuxième exemple, c'est Noël avec le sapin. Le sapin, ça paraît évident à tout le monde de décorer un sapin pour Noël. Eh bien, on a toujours là encore un rapport au végétal. Le donner et le recevoir passe aussi, bien entendu, par le végétal. On va offrir des fleurs et on va considérer que les fleurs n'ont pas toutes les mêmes significations. Alors, il se trouve que dans ce livre, je suis partie d'En sortir de terre. Je suis partie d'une société qui est une société qui a été colonisée de façon tout à fait dramatique, dans laquelle il y a donc un peuple premier, j'entends le peuple Kanak, qui n'a le droit de vote que depuis 1957, qui vivait dans des réserves, donc enfermé sans avoir l'autorisation de bouger hors des réserves de façon spontanée, donc jusqu'en 1946, et qui a une pratique ancienne d'ailleurs, mais une pratique qui persévère, c'est de considérer certaines ignames comme la chair des ancêtres. Pourquoi certaines ignames ? Parce que les ignames sont des plantes à rhizomes. Il y a du reste des plantes à rhizomes horizontales. Et ces plantes à rhizomes, on ne les sème pas. On va couper un élément de tubercule, tubercule de l'igname, on va le replanter et la nouvelle plante va se développer à partir de ce repiquage. C'est très intéressant parce que ça veut dire que c'est le même individu. En 100 ans, c'est toujours la même igname. Donc, il y a une continuité. Et du reste, il y a une pratique en Océanie qui est une pratique très courante. On dit en français, quand il s'agit du français, parce que je ne connais pas les langues kanak, ni les langues polynésiennes, on dit par exemple qu'on va repiquer un enfant quelque part. Par exemple, on va confier son propre enfant à l'oncle utérin, c'est-à-dire l'oncle maternel, là-bas on dit oncle utérin, donc l'oncle maternel, et qui saura qu'il a des parents, mais ses parents seront ses parents de là où il a été repiqué, et qui vont s'occuper de lui comme des parents. Donc on voit très bien la liaison entre l'individuel, le familial, et justement cette ancestralité par le végétal. Mais on peut le trouver ici aussi. Par exemple, mettons à la campagne, parce qu'en ville, évidemment, c'est beaucoup plus rare. On dit, voilà, regarde, ça, c'est l'olivier qu'a planté mon grand-père. Ou c'est toujours rapporté à quelqu'un ancien, parce qu'on ne dit pas, ça a été planté il y a deux jours. Non, c'est pas, on ne fait pas cette présentation des arbres. Mais voilà, les arbres, on les présente, on ne les laisse pas tels quels. Ils sont liés à une pratique ancienne et à quelqu'un qui appartient justement à la famille.
Merci beaucoup pour c'est une belle entrée en matière. On va revenir sur ces questions de lignage, on va revenir sur cette société Kanak de Nouvelle-Calédonie. Justement, c'est ce que j'ai adoré dans votre ouvrage, c'est que vous ouvrez l'horizon et... Moi, lecteur européen, vous décentrez totalement mon regard, vous m'amenez à un endroit où je n'ai pas intellectuellement été, et vous m'aidez à comprendre qu'il y a une philosophie à tirer de choses que je ne voyais que comme de l'agricole. Et ce déplacement-là, je pense qu'il est essentiel chez le lecteur. Mais on va y revenir, évidemment. Je voudrais aller vers Alsbir Soleiman. Déjà, pour vous dire que je suis vraiment très heureux de vous avoir avec nous et ô combien j'ai adoré ce magnifique livre publié par les éditions Le Port à Jauny, qui sont à Marseille, et donc je tiens aussi à souligner le grand travail de cette maison d'édition. Mais c'est quand même ici saluer le grand travail qui a été fait autour de cet ouvrage, qui est peut-être dédié à la jeunesse, mais pas seulement, qui s'adresse aux grands, je le souligne aussi, que vous avez coécrit avec Elsa Valentin, illustré par Frédéric Henault, et je tiens aussi à souligner la traduction en arabe par Golan Haji. Peut-être brièvement quelques mots à votre sujet, ça me paraît important. Vous êtes originaire de l'Abdo, un village du Darfour, et vous avez grandi effectivement dans cet environnement où nous, on en entend essentiellement parler en Europe comme un environnement lié à des questions de conflit, à des questions de déplacement. Mais justement, ce livre nous parle d'autre chose, et c'est ça qui est précieux dans ce livre. Donc on va revenir sur le baume du grand-père, mais je veux quand même souligner le fait que vous êtes arrivé en France, vous avez quitté le Soudan et vous êtes arrivé en France en 2017, vous avez appris la langue française à partir de là, et c'est cette rencontre avec Elsa Valentin qui est à l'origine de cet ouvrage qui fait partie d'une trilogie, si je ne m'abuse. Et cet ouvrage, il touche à la question effectivement de la relation depuis l'exil avec votre famille, avec votre grand-père. Et je me disais qu'on pouvait peut-être commencer à en parler à partir de cette première phrase que je trouve très touchante. On parlera plus tard un peu de la construction du livre qui est particulière, qui est même fascinante. Mais je vais lire la première phrase en français. Peut-être que vous pourriez la lire en arabe si vous le voulez. Mon grand-père me dit des secrets à moi seul bien avant ma naissance. Ce lien avec votre grand-père bien avant votre naissance, c'est quelque chose qui m'a tout de suite à la fois touché, fasciné et questionné. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Tout d'abord, merci pour votre interview. Je suis vraiment très content que je sois là avec vous aussi. Pardon. En fait, les questions de le secret de mon grand-père, ça m'a appris de grandir dans cette société où je suis actuellement. Parce que c'est vrai, comme vous avez dit, j'ai quitté mon pays, je suis installé dans un pays qui je ne parlais pas la langue, ni la culture, ni plus rien. Malgré ça, je gardais toujours le lien qui est vraiment riche par rapport à mon grand-père. Parce qu'en fait, grâce à mon grand-père, en fait, j'ai appris beaucoup de choses pour qu'il puisse vivre la vie quotidienne, tous les jours.
Merci beaucoup. C'est un livre qui est très touchant. Parce qu'on comprend que cette figure du grand-père, elle existait bien avant votre naissance et elle vous a porté même avant votre naissance. On va revenir sur ce personnage, évidemment, qui traverse ce récit, qui traverse votre enfance et qui est un peu le grand-père qui nous enseigne à nous tous quelque chose de précieux. On va y revenir. Je vais me tourner vers Jennifer pour peut-être commencer à parler un peu de... On a parlé de ses silences. Mais ces silences, ils partent aussi dans votre roman d'un personnage qui s'interroge. Cette première femme, c'est une grande question dans votre roman. Qui est la première femme de votre roman ? Mais en tout cas, elle est liée à Kirabou, l'héroïne, qui s'interroge sur son origine, sur l'absence de sa mère. Il s'agit d'une certaine manière pour Kirabou, il me semble, de reconstruire à la fois une histoire, mais aussi de retisser peut-être un lien avec une généalogie et peut-être même avec un mythe autour de cette absence de sa mère, elle qui est élevée par sa grand-mère et qui s'interroge et qui va interroger un personnage sur lequel on reviendra également.
I hope I've got your question. What is Chilabo looking for exactly. when she's looking for exactly. the first woman? There's a sense in my culture that we go back so far back, you know, and for example, whenever you introduce yourself in my culture, you also introduce three grandfathers. That's how close ancestors are. So when Chirabo is looking for her mother, and when she's having problems connecting herself to her mother, she decides that the only person who would know would be a witch.
Donc, pour nous, effectivement, dans notre identité, nous remontons à plusieurs générations, et quand on se présente dans ma culture, on ne se présente pas soit toute seule, mais on présente trois grands-pères. Et quand Chirabo va commencer à chercher sa mère, elle se dit que finalement, la seule personne qui va pouvoir l'aider à répondre à ses questions, ça ne pourrait être qu'une sorcière.
But the witch, who's not really a witch, but just an intelligent woman whom society can't handle, knows what happened to Chirabo's mother. But the family, and including the witch, are protecting this little girl from the truth.
Mais la sorcière, qui n'est pas vraiment une sorcière, c'est juste une femme intelligente que la société a du mal à maîtriser, à contrôler. Elle sait ce qui est arrivé à la mère de Chirabo, mais elle sait aussi qu'elle veut protéger, de même que la famille de Chirabo veut la protéger par rapport à l'existence de cette femme.
And so she teaches her about why women are the way they are, because Chirabo's mother abandoned her because she had her when she was very young. And in my culture, if a girl has a child before she's married, then there'll be problems getting married. So because of this, the witch knows that if Chirabo finds out why her mother rejected her, she would never forgive her mother. So she prepares her to understand why the mother did what she did, but also understand the nature of women.
Et donc, cette sorcière, cette femme à qui Chirabo demande la vérité, elle sait ce qui est arrivé donc, à Chirabo quand elle était petite. Elle a été abandonnée par sa mère, mais elle veut protéger Chirabo de ce secret parce qu'elle a peur que cela ait une influence sur Chirabo, une mauvaise influence sur Chirabo. Et dans ma culture, quand une femme a un enfant en dehors du mariage, elle a beaucoup de mal à trouver un mari ensuite. Et donc, avant de laisser connaître à Chirabo le sens de son histoire, le fait qu'elle a été abandonnée parce que sa mère était trop jeune quand elle lui a donné naissance, elle veut lui expliquer le sens des femmes, en fait, de l'action des femmes.
And so she, like all grandmothers and witches, she told her a story. Once upon a time, women were as strong, they were as big, they were as tall, and they also owned properties like men. But then one day, men decided that women actually cannot own property because they came from the sea. They came out of water, while men came out of land. And if women came out of sea, then they cannot own properties on land. If they want to own any properties, they should go back to the sea and own properties in the sea. So if this is the case, then she's explaining that women were powerless.
Et donc, elle fait ce que savent faire les grands-mères et ce que savent faire les sorcières, c'est-à-dire qu'elle va raconter un conte qui commence par « Il était une fois » et elle raconte que les femmes, autrefois, avaient du pouvoir, elles étaient grandes, elles étaient fortes, elles étaient aussi fortes que les hommes. Mais à un moment donné, les hommes ont décidé que les femmes n'avaient plus le droit d'avoir de propriété, n'avaient plus le droit de posséder des choses, tout simplement parce qu'elles venaient de la mer, alors que les hommes venaient de la terre, et que si elles venaient de la mer, elles n'avaient pas le droit de posséder des choses sur la terre. Et donc, ils leur ont dit de retourner dans la mer et d'essayer de posséder des propriétés dans la mer.
And that's the story of the first woman. Well, that's the beginning of the story of the first woman.
Et voilà, c'est le début de l'histoire de la première femme.
Merci, Jennifer. Et on reviendra sur le personnage de Nsuhuta et ce fameux mythe des femmes qui viennent de la mer, qui est extrêmement beau dans votre roman. C'est un passage peut-être que je lirai plus tard. On verra selon le temps dont on dispose. Je me permets, pour aussi rebondir, revenir sur cette question d'ancestralité. On a commencé à parler de la société Kanak tout à l'heure. Ce qui m'a intéressé dans votre ouvrage, c'est que vous définissez cette pensée du rhizome dans la société Kanak comme non hiérarchique. J'ai trouvé que c'était aussi intéressant cette notion d'une continuité qui n'est pas uniquement fixe. Les choses se transmettent sans rupture dans la société Kanak, et cette idée de rhizome crée une forme de tout. J'aimerais revenir sur cette question de hiérarchie, parce que la hiérarchie, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est très présente dans nos discours. On a tendance à hiérarchiser. Je parlais des questions culturelles, les questions modernes, et voilà une société qui pense le monde sous une forme peut-être d'harmonie. En tout cas, ça m'intéresserait peut-être de revenir sur cette société Kanak que vous avez étudiée. Et j'ai découvert beaucoup de choses que j'ignorais totalement dans la richesse de leur philosophie du monde.
Alors en fait, le livre ne porte pas seulement sur la société Kanak. Mais vous savez, dans l'histoire de Robinson et Vendredi, il y a toujours un Robinson qui découvre un Vendredi. Et Vendredi est considéré comme moins important que Robinson. C'est comme quand on dit, voilà,
Monsieur X ou Madame Y a découvert cet artiste africain exceptionnel. Donc l'artiste africain exceptionnel, finalement, c'est vendredi. Il se trouve que, s'agissant de l'INIAM, moi, bien sûr, je ne suis pas partie de la société Kanak. Je suis partie de mes études de philosophie et de textes de Deleuze et Guattari, donc un philosophe et un psychiatre, qui ont considéré le rhizome comme une structure, effectivement, une structure qui valorisait l'horizontalité par rapport à l'ancestralité et qui trouvait que c'était plus intéressant de penser en termes de rhizome qu'en termes d'arbre, comme quand on dit arbre généalogique. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est que la généalogie, elle est souterraine. Elle est enterrée, la généalogie. On ne l'a pas là sous les yeux. À part quand on dit c'est l'arbre que mon grand-père ou mon arrière-grand-père ou mon arrière-grand-mère a planté, mais il se trouve que souvent, c'est plus souvent, ce sont les hommes. Donc, en fait, au lieu de partir de Deleuze et Guattari, je suis partie des Kanaks. Il se trouve que la société Kanak, c'est quand même une société hiérarchisée. C'est quand même une société hiérarchisée parce que ces ignames qu'on appelle des ignames chefs, c'est une variété particulière d'ignames qui est véritablement sacralisée. Elle est sacralisée, elle concerne, en fait, elle est sacralisée dans la mesure où elle est associée à des cérémonies qui sont très importantes, des cérémonies de deuil, des cérémonies de mariage, des cérémonies de naissance. Donc, des cérémonies qui ont à voir, bien sûr, avec le cycle de la vie. Mais il faut savoir aussi que le développement de l'igname, donc ce développement souterrain, il s'effectue pendant 9 mois. Et que donc, l'igname, il faut ces 9 mois. Donc, il y a pour avoir le tubercule. Donc, ce type de rapport, si vous voulez, à l'igname, on le trouve en Afrique, par exemple. On le trouve en Afrique, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que les Kanaks. Et ce qui me semblait intéressant, parce que dès qu'on dit Afrique, en fait, ça veut dire monde inconnu, étranger, et puis on n'en mesure pas la taille, ni la diversité, ni comme si le Soudan, c'était le Mali, c'était l'Ouganda, c'était la République démocratique du Congo, etc. Et donc, en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que d'abord, on a du mal à penser les différences et que ces différences, on les augmente. On les augmente d'autant plus qu'on ne sait pas les formuler. Donc, là, on va inventer des fossés entre des cultures particulières dont on considère qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Sachant que ces fossés, ils ont été creusés par les premières générations d'anthropologues qui ont dit « regardez comme ils sont sauvages, regardez comme ils sont étrangers, regardez comme ils sont primitifs ». Et finalement, ils tenaient, ces premiers anthropologues, le langage du colonisateur en disant « regardez comme ils sont inférieurs ». Donc, ils faisaient des choses complètement différentes. Donc, j'ai voulu un peu reconsidérer, disons, cette perception initiale et souligner quelque chose qui est quand même important, c'est que le rapport des Kanaks, ça a été montré par un Français qui s'appelle André-Georges Audricourt, un génie qui n'a pas fait école, mais vraiment un ethnobotaniste, le premier ethnobotaniste français, qui a souligné le fait que le rapport qu'on avait au végétal et à l'animal indiquait le rapport qu'on avait à l'humain. Et il a montré que la façon de cultiver des Kanaks, mais d'une certaine façon, on pourrait dire l'agriculture pré-moderne, ça veut dire pré-années 40 en France, avant le tracteur, le remembrement et toutes sortes de choses qui étaient censées soutenir la modernité agricole, eh bien, c'est une culture qui accompagne en l'espèce le végétal sans le contraindre. C'est l'accompagnement, c'est une action, disons, comme le dit Audricourt, indirecte et négative. Donc, il y a des choses qui sont liées à la fois à la sacralité et à la fois au type même d'agriculture, en fait, qui donne les paysages calédoniens qui n'ont pas été, évidemment, massacrés par les Européens venant développer l'agriculture et l'élevage intensif.
Merci beaucoup. On reviendra sur ces différents champs que vous abordez dans votre livre, mais c'est aussi ce que je veux souligner, c'est à quel point ce livre, c'est une invitation à une bibliographie vaste qui nous permet de redécouvrir des penseurs et qui nous permettent, eux, de voir le monde un peu plus largement que ce qu'on a parfois tendance à voir dans l'entonnoir de nos perceptions, de nos habitudes, et puis de l'ignorance qu'on peut simplement avoir de notre relation à cet espace naturel et à la sagesse qui peut s'en dégager, aux enseignements qui peuvent s'en dégager. Donc je me permets de rebondir vers Alsbeer pour revenir sur cette figure du grand-père et de ce... Pardon. Exactement. C'est justement là où je voudrais que vous nous parliez un peu de ce guide moral que représente ce grand-père à la fois pour sa communauté et pour vous. On a parlé évidemment de vous tout à l'heure, mais il est bien plus que ça. Il est quelqu'un qui a une voix importante, qui détient un savoir essentiel au sein du village et de la société et qui guide et aide cette communauté. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Ben, en effet, moi, je viens d'un pays qui compte beaucoup plus par rapport aux ancêtres, tout d'abord. Ben, et puis, mon grand-père, lui-même, il était chef de village, si vous voulez. Voilà. Au début, tout son village, ça n'existait même pas. Quand il est arrivé, ce qu'il m'a raconté, lui-même, il était installé son petit village. Et puis, les autres qui ont commencé à venir installer, c'est la raison, c'est celle-là qui est partie créer son village. Et puis, le respect, les ancêtres, ça joue énormément avant tout. Donc, parce qu'une fois qu'on a commencé à respecter les ancêtres, ça joue par rapport aux les générations à venir, pour qu'ils nous permettent d'avoir et comprendre qu'est-ce qui s'est passé au passé. Ils me racontaient et puis comment ils sont comportés par rapport pendant la guerre anglaise, parce que nous on était colonie anglaise. Et puis avant qu'on commence à partir de quitter un bon pays pour venir installer ce pays-là. Parce qu'il me disait, comme vous, tu vas partir ailleurs, mais tu ne verras pas la même chose qu'ici. Et puis, est-ce que tu as des astuces, tu as quelques choses pour t'en sortir de là? Ou peut-être pour ailleurs, les gens, ils n'ont pas la même chose. La raison pour laquelle il m'a conseillé plein de choses pour me permettre de rester toujours, parce qu'il me disait n'importe où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. Donc,
Merci beaucoup. Je me permets de lire un passage. Autour de la maison de mon grand-père, au fil des années, d'autres familles sont venues s'installer. Il les accueillit toujours. Alors c'est lui le cher du village.
C'est ça. Le mot cher, c'est en arabe, c'est comme chef de village, on va dire. En français, vous traduisez la chef de village, soit représentant le village. Voilà.
On parlera un petit peu de la construction du livre, cet aller-retour entre les deux langues que je trouve très intéressant, très touchant et à la fois engageant en tant que lecteur. Je le garde pour un petit peu après. On va aussi revenir sur ce savoir du grand-père et puis tout ce qui se dégage de cet univers. Il y a aussi un lien qui se retisse avec votre famille à travers votre enfance, votre sœur aussi. Ce livre, vous l'avez pensé depuis l'exil, mais je sens qu'il y a aussi une notion réparatrice dans ce livre, dans l'écriture de ce livre. Un pont qui se retisse, probablement.
En fait, parce que moi, je suis physiquement là, mais dans mon cœur, il est toujours dans mon pays d'origine, bien sûr. Et puis, ma sœur, parce que c'est elle qui m'a aidé aussi à grandir de son famille-là. Grâce à elle aussi, j'ai réussi pas mal de choses. Donc, du coup, depuis mon petit moment d'enfance, je lui dis un jour, peut-être, je vais te faire un plaisir. Puis, j'ai commencé à partager son histoire aussi.
Merci beaucoup. Jennifer, il y a la question de l'histoire. L'histoire au sens, la traversée dans le temps, le retour vers le passé, dans votre livre, qui est aussi très intéressante. J'extrais une réflexion que j'ai eue en vous lisant, votre roman touche aussi à la question de faire la paix avec le passé d'une certaine manière. Even with a troublesome story, même quand l'histoire est extrêmement tumultueuse, En tout cas, c'est un des enjeux de votre roman, il me semble.
No, I wouldn't call it a challenge, but making peace with the past is one of those things that we all have to do, especially those of us who, in your family, there's a family history, and that family history is passed on, like your grandfather. My family histories are also passed on with my grandfather. So, for example, for me, yeah, if you're looking at me, you're looking at my ancestors. In my family, everything about me can be traced back to somebody who's dead. Even something ugly, and that's how we own what is ugly about us. So if you have bad feet, your grandfather said, oh, that's my sister's feet. You're like, okay. I live with my feet. They belong to my great aunt. So it wasn't therefore in my book a challenge to deal with the past. But even though we tell stories from the past and they're passed on by our grandparents, there are some silences. There are times when stories are not told, because they are painful and they are shameful.
Alors, ce n'était pas véritablement un défi pour moi de faire la paix avec le passé, mais c'est vrai que tout en moi représente finalement mes ancêtres. Que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, on peut retrouver leur origine dans mes grands-parents, mes ancêtres. Si par exemple, vous avez des pieds qui ne sont pas jolis, on va vous dire, ah tiens, ça c'est les pieds de ma sœur ou c'est les pieds de... etc. Donc on remonte, tout en nous appartient d'une certaine manière à nos ancêtres. Donc faire la paix avec le passé, c'est vrai que c'est quelque chose de très important et que ça devrait l'être pour tout le monde. Ça n'était pas nécessairement le défi que je me donnais quand j'ai écrit ce livre, mais d'une certaine manière, c'est ce qui est réalisé aussi.
So one of the stories that we are not told is the slave trade. In school, we are told that slaves were taken by Arabs. But because the slave trade from East Africa went through the Indian Ocean. But they don't tell you that our ancestors captured people and sold them into slavery. So that's one of the silences.
Parmi les silences, on peut parler du silence autour de l'esclavage. À l'école, on nous apprend que l'esclavage a été le fait donc d'Arabes qui sont venus prendre des esclaves en Afrique, à l'est de l'Afrique. Et ce qu'on ne nous raconte pas, c'est que ce sont aussi parmi nos ancêtres des personnes qui, eux aussi, ont vendu leurs contemporains, leurs congénères à ces personnes.
So our slave trade to the Arab world was interested in women and girls. So in my country, in my tribe, my people used to raid other tribes, not their own. They would get women and they get girls and sell them to the Arabs. Now, in my novel, the witch that we've been talking about, her grandmothers had been captured from another tribe. But normally when the captured women who were beautiful, the men kept those women for themselves and then they sold the not so beautiful ones to the Arabs. So this takes us back to that story that women came from the sea. So if you came from the sea, therefore you could be taken from one place to another. You could be sold into slavery. You could be sold into marriage because you don't have roots.
Donc quand nos ancêtres capturaient finalement des femmes pour les vendre. Ils gardaient pour eux très souvent les femmes qui étaient jolies et ils vendaient les autres. Et l'idée de la mère, que les femmes viennent de la mère, ça vient aussi de là, c'est-à-dire que la femme, elle est faite pour être vendue à travers les mères, elle est faite pour être vendue à un homme par le mariage, donc elle n'a pas de racines, d'une certaine manière.
Merci beaucoup. Et c'est cet aller-retour historique dans la discussion entre l'héroïne et Nsuta qui nous permet petit à petit de comprendre tout ce passé et aussi d'éclairer en fait l'arrière-plan du positionnement de l'héroïne, puisqu'elle elle-même se rebelle contre les mariages arrangés, elle exprime une position féministe dans le roman évidemment, elle se construit en tant que femme, mais cette construction est alimentée par la reconnaissance de cette histoire, il me semble.
Yeah, because sometimes knowledge of the past, knowledge where you come from. We know that we inherit features. If I'm dark because my great-grandmother was very dark, that explains. But sometimes they don't explain why I'm angry. You know, like I'm an angry woman, angry black woman. But that anger could be coming from my grandmothers, my great-grandmothers, who were raided from somewhere, okay, brought into the family, and my grandmothers were born, and my mother, my dad was born. But there is a scene somewhere, you know, that some woman who is my ancestor, lost her family, lost her roots, lost everything, even though she's been a good grandmother, great-grandmother, but there's that silence and that pain. And that explains my anger, my desire to rebel.
Alors, si je prends mon exemple, hein, pour en parallèle de celui de Tshirabo, si je prends mon exemple, par exemple, le fait que ma peau soit noire, ça vient évidemment de mes ancêtres qui avaient la peau noire. En revanche, ça n'explique pas nécessairement ma colère, le fait que j'ai envie de me rebeller. Il y a des silences dans la famille, il y a des silences, des choses qu'on ne dit pas. Mais il y a aussi des histoires qui peuvent être l'histoire d'une grand-mère qui a été vendue à un mari, qui, malgré une vie tout à fait exemplaire, a pu rencontrer de nombreuses difficultés dans sa vie. Et cette colère que je ressens, ben, elle peut venir de là et elle peut expliquer pourquoi je me rebelle, pourquoi j'ai envie de me rebeller et que je sens le désir de se rebeller. Donc ça remonte à mes ancêtres.
Unknown to society, these women also told stories that they whispered those stories to their daughters. And those stories are carried on. They are often coded because they don't tell you exactly what happened. But they use stories to hint at what happened to them.
Très souvent, ces femmes, elles ont raconté les histoires qui étaient tues, qui étaient mises sous silence, mais à travers des histoires un petit peu codées auprès de leurs filles, avec des indices pour qu'elles comprennent sans véritablement leur dire ce qui était arrivé.
Merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle un petit peu du personnage de Nsuta, qui est effectivement cette dite sorcière, mais qui est bien plus que ça, et d'ailleurs qui fait écho par certains aspects au grand-père d'Alsbeer, je pense. Est-ce qu'il serait possible de nous dire quelques mots au sujet de ce personnage central ?
The witch or the grandfather? The witch. Okay, so you had witches in the West, didn't you? Yes. We do have witches in Africa. But like the witches in the West. These are women that society has failed to control. So Nsuta is exceedingly intelligent, more intelligent than the grandfather who was in love with her. But she was the deadly kind of woman because she was not only intelligent, but beautiful and educated, and therefore she rebelled. And in order to control the rest of the women, this Nsuta is put in the space of a witch so that all other women can look at her and know you don't behave like her and also avoid her. But of course, for Nsuta, this is hallelujah, you know, because then it gives her permission to do exactly as she wishes.
Donc Nsuta, la sorcière, vous avez aussi des sorcières en Occident et c'est exactement la même chose. Et on a des sorcières en Afrique et c'est exactement le même principe. Nsuta, c'est une femme extrêmement intelligente, bien plus intelligente que le grand-père, qui était le grand-père de Tshirabo, qui était amoureux d'elle. Et c'est une femme qui est non seulement intelligente, mais en plus elle est très belle et elle est éduquée. Donc elle est dangereuse pour la société patriarcale. Et donc on la montre du doigt comme une sorcière, on la met à l'écart, et de manière à dire aux filles, aux jeunes filles et aux femmes, vous voyez, cette femme-là, il ne faut pas l'imiter, parce que regardez, c'est une sorcière. Et donc c'est un but, le but, c'est évidemment de pouvoir contrôler le reste des femmes en la mettant à l'écart. Et pour Nsuta, c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose qui lui plaît finalement, parce que du fait qu'elle est à l'écart et qu'elle est de toute façon considérée comme une sorcière, eh bien, elle se permet de faire absolument tout ce qu'elle veut.
The other witches that we had came out as a result of old men marrying young girls. So a man of 40 years in the past, 40, 50, would marry a teenager. But you know the problem with men, they die. And when they die, they leave behind a widow who is just 30 or 40. And she's occupying a property. So in order to get rid of her from the property, because she's going to live a long time, women tend to live a long time everywhere in the world, you know, if he dies when she's 30, that's another 40 years she's going to live on that property. So better call her a witch, get rid of her from the land, and it's taken back in the family.
Une autre catégorie de sorcières dans mon pays, ce sont les jeunes femmes, les adolescentes qui se marient avec des hommes plus âgés, d'une cinquantaine d'années par exemple. Bon, les hommes meurent, ça leur arrive souvent. Et donc ils vont laisser une veuve qui aura à peine 30 ans et qui va peut-être vivre, parce que les femmes vivent plus longtemps, qui va peut-être vivre encore 40, 50 ans. Et de ce fait, elle est embêtante parce qu'elle a une propriété, cette femme, parce que c'était un homme riche. Et donc elle est propriétaire d'une terre, et ce qui ennuie le patriarcat, et donc on va la montrer du doigt comme une sorcière, de manière à pouvoir se débarrasser d'elle et de récupérer la propriété dans les mains des hommes.
Merci beaucoup. On aura l'occasion aussi de reparler de ces mythes autour des femmes dans votre roman, mais je vais revenir vers ces lois. On parle souvent de retour à la nature, et là, dans votre livre, je trouve que c'est une dynamique inverse, c'est tout part de la nature, ne serait-ce qu'à travers les différents chapitres, hein, de l'Igna Morisum, une navigation océanique, de la botanique au devenir plante, l'herbier du philosophe, de l'amour des fleurs à la passion érotique, une folie douce, du goût pour la végétation au masque de la science, naturalisme. Je pourrais citer d'autres chapitres, mais ce que je veux dire, c'est comment est-ce que vous avez pu explorer tous ces champs et finalement y retrouver l'origine, le point de départ qui est peut-être la nature à chaque fois.
Alors en fait, dans ce livre, je ne parle pas de nature. Je comprends qu'on en parle. Mais moi, je ne parle pas de nature parce que justement, comme je viens de la philosophie, je sais trop bien combien on a opposé nature et culture, comme si c'était des choses complètement différentes, voire même opposées. Donc j'ai renoncé en fait à employer ce langage. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble en fait à la scène d'un film, mais qui a servi de générique à une émission de télévision qui était le cinéma de minuit. On voyait un couloir et il y a quelqu'un qui ouvrait les portes les unes après les autres. Et on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur de chaque pièce. mais c'était l'ouverture des portes. C'est quelque chose qui a énormément frappé mon imagination et j'ai construit le livre de cette façon. C'est comment on peut ouvrir des portes qui sont quand même voisines, parce qu'on n'ouvre pas des portes comme ça dans des espaces totalement différents. Si on ouvre les portes les unes après les autres, ça veut dire qu'elles sont proches. Mais en empruntant, disons que les pièces sont très différentes les unes des autres. Les pièces dont les portes, voilà, qui sont... Par exemple, je peux revenir à un texte littéraire qui est le texte de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, parce qu'il y a un chapitre dans Bouvard et Pécuchet qui était extrêmement important pour Flaubert. C'est Bouvard et Pécuchet qui font leur jardin. Vous savez que Flaubert envisageait Bouvard et Pécuchet comme étant une encyclopédie de la bêtise. Eh bien, la bêtise la plus grande de Bouvard et Pécuchet, on la voit précisément dans la façon dont ils essaient de faire ressembler leur jardin à des modèles, mais en plus à différents modèles, donc ça ne peut pas marcher. Et finalement, le jardin ressemble à rien. Ils ont essayé d'effectuer des coupes des arbres et des arbustes qui ne sont pas parvenus à réussir, etc., etc. C'est la catastrophe. Et ce qui m'intéressait également, ça c'est sur le plan stylistique, c'est le fait que quand Flaubert écrit Bouvard et Pécuchet, c'est pour déjouer les genres littéraires. Il veut qu'on arrête avec les genres littéraires, donc son livre aura tous les genres, ça veut dire qu'il sera hybride. Et cette hybridation, c'est la forme même du livre. Et le rhizome, c'est la forme même, d'ailleurs, de la pensée et du livre sur le rhizome de Deleuze et Guattari. Alors, moi, j'avais envie donc de faire ça. J'ai peut-être un peu perdu de vue la question. Et pour montrer, en fait, qu'il y avait des choses qui nous ont été transmises, précisément, généalogiquement, j'entends dans la généalogie intellectuelle, qui nous a été transmise et auxquelles on n'a pas suffisamment prêté attention. Par exemple, chez des philosophes du passé qui sont beaucoup moins, ils sont beaucoup plus ouverts qu'on a pu le penser. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être mineures en un sens dans leur pensée, mais qui sont très importantes parce qu'il n'y a aucun philosophe qui a pu éviter les métaphores. Et je donne un exemple, je ne vais pas avoir le temps de détailler parce que l'heure tourne, je donne un exemple, c'est l'exemple de Hegel qui essaie de définir la dialectique par le développement d'une plante, parce qu'il essaie de faire comprendre à ses lecteurs ce que ça peut être la dialectique. Eh bien, il explique que la dialectique, c'est de conserver quelque chose comme supprimé. Ça a l'air bizarre quand on le dit comme ça, on se dit « ah oui, c'est bien de la philosophie ». Mais en fait, quand la fleur se transforme en fruit, la fleur reste d'une certaine façon disparue dans le fruit. Et quelquefois, on voit un petit peu la fleur. Donc, ce que je trouve intéressant, disons, parce que je voudrais répondre très, très rapidement à ce qui a été dit, c'est que les mythologies, c'est très, très intéressant. Et que d'ailleurs, la famille, c'est toujours l'espace même de la mythologie, avec ses personnages, ses secrets, son enquête, la curiosité, on a dit que, mais finalement, c'était autre chose, etc., etc. Moi, comme j'ai voulu procéder autrement, je me suis centrée justement sur ce qui est souterrain. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui était souterrain et qui détermine en fait ce qu'on a, visiblement ce qu'on voit. Donc en même temps, c'est le présent et l'absent et le visible et l'invisible que j'explore dans ce livre. Si vous voulez voir un petit, c'est une page de publicité, mais pas pour moi. Si vous voulez voir, il y a un petit film, un court film en fait, expérimental qui a été fait dans ce livre et qui est accessible gratuitement sur le site de Zulma. Voilà, si ça vous intéresse de voir comment on peut mettre en image un livre de philosophie.
Merci beaucoup. Ça m'a permis de repenser aussi, vous parliez de Deleuze et Guattari, à quelqu'un qui a été largement influencé par eux et qui a fait énormément pour nos diversités littéraires, qui est Édouard Glissant, à travers sa créolité. Et donc justement, je trouve ça précieux dans votre livre, c'est que vous nous faites relire aussi certains ouvrages qui ont pu passer dans nos lectures et repenser à tous ces champs, mais sous un autre angle. Et puis, je vais toucher à la question de la langue avec Elsbeer, mais je voulais juste faire une petite parenthèse, encore avec vous, Célois, pardonnez-moi. Il y a une question de la langue qui touche à la faune et la flore dans votre livre, autour d'une population du Maroc, les Ait Bahamran. Vous nous expliquez, vous nous apprenez qu'ils ne considèrent pas en effet que la langue s'apprend. Ils estiment qu'elle se transmet par quatre voies, par le sang et le lait, par la flore et la faune. Voilà une manière d'apprendre la langue qui est totalement nouvelle et différente pour moi. Est-ce qu'il serait possible de nous parler un petit peu de cette population et de cette manière de transmettre, justement ?
Alors, en fait, et bien sûr, comme j'ai lu de l'anthropologie, c'est pas moi qui suis allée sur le terrain, mais j'ai lu des textes d'anthropologues et je trouvais ça passionnant parce que les enfants ont le droit et même ils sont encouragés à inventer leur propre langage dehors. Mais un langage qui va se parler entre enfants de la même génération. Et un langage qu'ils ne vont pas parler à l'intérieur de la maison, où ils vont parler un autre langage. Mais ils peuvent quand même, de temps en temps, faire des petites importations. Ça développe en réalité un esprit poétique, mais à la vitesse de l'éclair. Je me suis dit, mais c'est fantastique comme pratique éducative. J'ai trouvé ça absolument génial. C'est-à-dire que librement, inventer un langage commun qui est forcément très métaphorique, très très métaphorique, qui creuse vraiment les images et qui fait le lien totalement, un cordon ombilical entre le monde extérieur et le langage qui, au lieu d'être rapporté à la raison, nanani nanana, et rapporté en fait aux perceptions, aux sensations, aux observations des enfants.
Merci beaucoup. Je vais prolonger avec Elsbeer autour de la question de la transmission de la langue dans votre livre. Votre livre, en fait, il se lit, il est assez fascinant, il se lit dans les deux sens. J'aimerais qu'on parle un peu de la construction de ce livre, qui peut se commencer par l'arabe ou qui peut se commencer par le français et qui mêle les deux langues, qui le mêle dans les pages même, dans le texte même, avec des mots arabes qui surgissent dans le français et vice-versa, mais aussi autour de l'illustration. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé aussi très intéressant, comment vous avez construit ce livre comme un objet, comme un va-et-vient, comme quelque chose qui emporte aussi le lecteur dans cette rencontre. Et je voudrais un peu que vous nous parliez de ce qu'il y a derrière cette idée de rencontre, de va-et-vient, et de pouvoir lire un livre dans les deux sens. Ce n'est pas quelque chose de banal en soi.
En fait, ben évidemment, bien sûr que comme vous avez dit, la langue, c'est très important parce que moi, j'écris... c'est dommage que je parle de ma langue maternelle, mais ça n'était pas écrit, donc je ne peux pas écrire dans ma langue maternelle. La raison pour laquelle ma langue maternelle, c'est en fait le langage qui se situe en ethnique, qui se situe au Soudan, nous, parce que si vous voulez, au Soudan, on a plusieurs ethniques. On peut parler chacun de sa propre langue maternelle, mais pour se communiquer, il faut qu'on communique soit en anglais, soit en arabe. C'est les deux langues officielles de notre pays. Et mon grand-père me parlait, il me dit, pourquoi tu ne parlais pas de ta langue maternelle et tout. Parfois, il me dit ça. Mais ce serait dommage que ce n'était pas crié dans ma langue maternelle. Du coup, j'écris en langue arabe pour que les gens comprennent les deux langues. Et puis, ça nous permet aussi de ne pas oublier la langue que j'ai été enseignée à l'école aussi. Voilà. Et puis, certains de mes origines qui vont consulter certains mes livres, qui puisse permettre de comprendre aussi. C'est pas cool le français parce que j'ai écrit ça par rapport aussi à mes ancêtres, permettre de comprendre aussi pourquoi j'écris ce livre.
Merci. Voilà. Y a un passage que j'avais envie de vous lire de ce livre que j'ai trouvé très touchant. Mon grand-père me dit des secrets. À moi seul, il apaise mes fureurs, mes colères, m'apprend à moins me battre. Si un garçon t'insulte, essaie de savoir qui il est, de comprendre pourquoi il fait ça, plutôt que de te jeter sur lui. Est-ce qu'il serait possible de nous parler un petit peu de cet enseignement qui me paraît important ?
Ça, c'est quelque chose qui m'a transmis depuis mon petite jeunesse, qui m'a appris beaucoup de choses. Pour permettre aussi, c'est pas qu'on se battre pour résoudre les problèmes. Parce que me raconter, oh, ils ont vécu tellement ils ont subi tellement de violences après les colonies, ensuite à la guerre au Soudan qui était éclatée depuis 2003. Et ça nous permet de se comprendre aussi, de laisser passer certaines choses pour qu'ils puissent de comprendre aussi aux autres. Parce que si je réponds à un acte qui est violent par la violence, toujours me disait la violence n'a jamais réglé le problème. Donc c'est vrai ce qu'il disait. Et puis ça m'a appris aussi de permettre de voir et puis de comprendre un petit peu, de en sortir de tout ce qui est conflit. Pour moi, il me dit toujours oublier, pardonner, c'est pas oublier. Donc c'est vrai, on pardonne certaines choses, mais on n'a pas oublié, donc toujours de ces choses-là.
Merci beaucoup. On est aussi autour de la question de la langue, je reviens un petit peu en arrière. Jennifer, dans votre récit, il y a des expressions Luganda qui surgissent, qui ne sont pas nécessairement traduites en français. J'aimerais aussi que vous puissiez nous parler de cette volonté d'introduire du texte dans le texte, de permettre au lecteur aussi de toucher à une autre langue dans votre texte et de toucher peut-être à quelque chose qui est lié à ce savoir, à cette histoire qui est racontée par Tsuta, à l'héroïne.
So, one of the reasons I introduce words from my language into the text is that, one, I need to remind my readers that the writer and the book and the action is not taking place in London or anywhere they speak English. This is happening in Uganda, and we speak Luganda. So often when you come across those words, it takes you back, and you realize, okay, I'm in a different world, because reading is traveling, okay? And when you travel to different cultures, you're going to listen to different languages. So in my book, 99.9% is English. But that 1% reminds you that you're in Africa, that you're in Uganda.
Donc dans mes livres, tout ce que je veux, c'est que le lecteur sache que ce qu'il lit, ça ne se passe pas à Londres ou ailleurs, dans un pays anglophone. Je veux qu'il sache que ça se passe en Ouganda. Donc 99,9% du vocabulaire est en anglais ou en français dans la traduction, bien sûr. Mais il y a ce petit pourcent ou dixième de pourcent qui va être dans la langue, dans une langue de l'Ouganda, de manière à pouvoir se souvenir que mes personnages sont bien des personnages africains qui vivent en Ouganda, et de manière à rappeler la réalité en fait de l'histoire. Et quand on va lire ces mots, on va peut-être être surpris au départ, mais c'est un moyen aussi de voyager, parce que lire, c'est aussi voyager, et c'est donc comprendre d'autres cultures.
The second reason is that English, I don't know about French, but the English language is such a diva. You know, you have to fight hair-raising fights with it to make it speak what you want to say as an African. So a lot of words cannot be translated into English. And also sometimes if I write proper Queen's English, the whole idea that the people who are speaking in the book are speaking Luganda, it just dies because they sound like the queen, you know? So often the words that are not translatable, I leave them in my language and then I change the context so that you can understand what the word means. But that is to help me keep the right attitude of the book and the right tone of the book.
La seconde raison, ça me permet de garder le bon ton pour le livre, parce que si mes personnages se mettent à parler, par exemple, l'anglais de la reine d'Angleterre, ça ne va pas coller à l'histoire. Donc, et puis surtout, l'anglais, c'est un petit peu comme une diva. On n'arrive pas à le maîtriser pour faire exprimer, et ce serait pareil en français, pour faire exprimer une réalité africaine. Donc très souvent, il y a des mots qui ne sont pas traduisibles finalement en anglais, que je laisse dans la langue africaine, et je m'arrange pour que le contexte permette de comprendre ce qu'ils veulent dire.
Merci beaucoup. Et puis il y a aussi cette question intéressante d'une quête personnelle qui devient une quête collective, une quête post-coloniale à travers le personnage de l'histoire racontée par Nsuta. Et ce parcours, c'est finalement un parcours qui devient aussi universel. Le lecteur apprend de cette histoire qui touche à une histoire bien plus vaste que celle même uniquement qui s'est déroulée en Ouganda, qui touche aussi à cette question coloniale, à cette confrontation historique, et finalement d'une quête d'une jeune fille à la recherche de ses origines. C'est aussi une reconnexion globale avec une histoire, aussi traumatique qu'elle soit.
Yes, you know, the funny thing is that when a writer, or at least me, when I'm writing, I don't normally think, is this an international story? Will this story travel the world and mean something to everybody? I tend to write a story that will make sense to me and to my people and to other readers I know. But think of the Mona Lisa, the picture. So when you stand in front of the image, those eyes are looking at you, and only you. And when you move over, they move with you. And when they move over, they move with you. And yet, that image was drawn so many years ago. I believe that a good story is like that. You know, I write it and it's good for me. But when I step away and someone else comes, it should make sense to them. But for some reason, if you tell a good story to your own world, it will be a good story to the rest of the world.
Au début, je ne réfléchis pas comme ça, c'est-à-dire que je ne me dis pas il faut que j'écrive une histoire qui va plaire au public international, etc. Ce que je me dis déjà, c'est que je veux écrire une histoire qui fait sens pour moi, que j'apprécie, qui est importante pour moi, qui est importante pour mon peuple. Et je prendrai l'image de Mona Lisa. Ce portrait, quand on le regarde, on a l'impression qu'il vous regarde vous. Et puis quand vous vous mettez de côté, vous faites un pas de côté, on a l'impression que les yeux vous suivent, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre côté. Donc c'est un petit peu pareil avec mes livres. Au départ, je les écris pour moi. C'est une bonne histoire pour moi et pour mon peuple. Et je pense que si une histoire est bonne pour vous et pour ceux qui vous entourent, ceux qui vous sont proches, alors elle deviendra une histoire dès que vous aurez fait un pas de côté. Elle continuera à être une bonne histoire pour les autres.
Merci beaucoup. J'ai deux petites questions avant de laisser la parole au public, pour ne pas être trop long. On parle de retrouver les ancêtres dans cette table ronde, mais finalement, je trouve que vous aimez bien inverser les choses, ces lois. J'extrais une phrase qui m'a frappé. Les ancêtres regardent les vivants à travers le miroir, conférant à l'univers une face concave et convexe. Cette phrase, elle m'a interrogé. Peut-être que j'en ai pas compris tous les aspects. En tout cas, j'aimerais qu'on puisse revenir à ce que finalement les ancêtres viennent nous dire à travers ce miroir.
Merci.
Mais ce qui se passe, c'est que... Je vais donner un exemple. Hier soir, Benjamin Stora, que je connaissais auparavant, fait une conférence. Puis on discute un peu, etc., parce que nos grands-parents sont de la même ville. En Algérie, ils sont tous les deux de Constantine. Ce matin, donc, il est rentré à Paris. Et ce matin, il m'envoie la photo d'une part, enfin de ses grands-parents, pas de tous ses grands-parents, de deux grands-parents, grand-père et grand-mère, dans une tenue d'apparat. C'est que, en réalité, et c'est un petit peu aussi ce qu'il fait en tant qu'historien, c'est-à-dire que on a un rapport à l'ancestralité, je pense en particulier, parce que je ne saurais pas étendre au-delà d'une certaine limite ce que je suis en train de dire, mais disons que quand on vient d'un univers dans lequel l'ancestralité a été broyée, considérée comme nulle et non avenue, perdue dans les limbes de l'histoire, eh bien, l'ancestralité a d'autant plus d'importance, en fait. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si on agissait sous le regard des ancêtres. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a une formule, parce que ça propose avantage, mais aussi inconvénient, parce que c'est l'idée de la dette. C'est l'idée de qu'est-ce qu'on doit à son grand-père, qu'est-ce qu'on doit à son grand-père dans de nombreux cas, etc., à ses grands-parents. Et c'est une phrase de Kateb Yassine, l'écrivain algérien. Et il disait « Les ancêtres redoublent de férocité ». Qu'est-ce qu'ils attendent de nous ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, ils attendent de nous, vous voyez, alors qu'ils ont disparu. Ils ont disparu, mais ils sont encore là, en fait. Ils sont encore là, bien sûr, symboliquement. Ils peuvent redoubler de férocité. Par exemple, est-ce qu'il faut être plus courageux que ce qu'on est déjà courageux ? Est-ce qu'il faut montrer plus d'endurance ? Est-ce que ce sont des réservoirs de questions, mais qui nous permettent de nous identifier nous-mêmes ? Là, je l'ai dit sur un registre moral, mais on pourrait le penser sur un plan politique, par exemple, parce qu'on voit bien que, quelquefois, on le voit bien d'ailleurs, il y avait des élections municipales, on le voit aussi aux législatives en France, etc., il y a des dynasties. Il y a Monsieur Truc et le fils d'un Monsieur Truc qui lui-même avait des responsabilités politiques, etc., etc. Où il y a, par exemple, des gens qui ont des enfants. Je pense à Eva Jospin, qui est une artiste. Alors, le père, c'est un politique, mais bloup, c'est une autre voie qui est prise. À chaque fois, c'est intéressant. À chaque fois, c'est intéressant et on se demande quels sont les... Justement, qu'est-ce qu'on peut savoir sur ces voies étonnantes qui font que, par exemple, on va prendre la langue de la famille dont on va incruster le texte, par exemple. Qu'est-ce qu'on va... Ou la langue qui n'est pas tout à fait la langue de la famille, mais qui est une langue de la famille, comme dans le deuxième cas, là, sur le Jeddi, le grand-père. Et donc, une langue de la famille qui va être là, présente dans les livres, ou d'autres manières. Il y a de multiples façons de faire ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Kafka. Évidemment, on le voit aussi chez Kafka, par exemple. Mais pas seulement. Donc, c'est quelque chose... C'est ce qu'on appelle les fantômes, en fait. Les fantômes, ils sont là, mais ils sont là, bien entendu, tels qu'on se les représente. Parce qu'ils ne sont pas là en eux-mêmes. Ils sont là pour nous.
Juste, je ne peux pas m'empêcher de lire le petit mot de Kafka qui ouvre votre livre. C'est qu'en effet, toutes les choses qui me viennent à l'esprit se présentent à moi non par leurs racines, mais par un point quelconque situé vers leur milieu. Essayez donc de les retenir, essayez donc de retenir un brin d'herbe qui ne commence à croître qu'au milieu de la tige et de vous tenir à lui. Extrait du journal de Kafka. C'est
ça. Parce qu'on ne commence jamais par le commencement. À chaque fois qu'on commence quelque chose, on est en cours de vie, en cours dans, justement, disons, une lignée, par exemple. Et donc, il y a une impossibilité de commencer au sens mythologique du commencement, qui serait « je commence absolument », etc. Et ça rend, évidemment, ce que l'on fait extrêmement fragile, non pas seulement subjectivement, mais objectivement. Parce que c'est... On peut élargir l'ancestralité, bien entendu. Par exemple, Kafka, moi, je le considère comme un de mes ancêtres. au sens élargi. Je ne considère pas l'ancestralité uniquement comme familiale sur le plan intellectuel. C'est une ancestralité qui est plus grande, qui est beaucoup plus cosmopolite, bien sûr, et qui fait qu'on se dit, mais comment ça, j'écris un livre, mais c'est un brin d'herbe, c'est rien d'autre.
Et vous avez dit, on commence quelque chose. Alsbir, j'ai l'impression que vous avez commencé quelque chose avec le poème du grand-père qui se poursuit aujourd'hui avec un projet d'un autre ouvrage, Poème sucré de mon enfance. J'ai l'impression que ce livre a ouvert quelque chose, peut-être à long terme, dans le récit à la fois de votre enfance, cette transmission, et peut-être aussi faire entendre ce que vous avez appris à partir de votre enfance et le vivre autrement aujourd'hui en tant qu'adulte de là où vous êtes.
Bien sûr, parce que grâce à cette transmission, j'ai appris beaucoup de choses. Ça me permet d'apprendre toujours à grandir. Et puis toujours, ma grand-mère me disait, en fait, un arbre sans racines ne sera pas poussé pour devenir un arbre comme vous voulez. Donc, grâce à nos ancêtres, ça nous permet de visualiser pas mal de choses. Donc,
voilà. Merci beaucoup. Je pense que cette question des racines, elle est une bonne ouverture, puisqu'on a commencé en parlant des rhizomes. Et on a vu que les racines traversaient, en termes thématiques ou de sujets, ces différents ouvrages. Et c'est peut-être aussi à partir de cette question des rhizomes et de ces transmissions de paroles qu'on pourrait la poursuivre. Si certains d'entre vous ont envie d'interroger, de profiter de ce beau moment, et puis évidemment de profiter de ces magnifiques ouvrages. En tout cas, je vous invite à poser des questions si vous en avez.
Bonjour. Plus une remarque qu'une question. Sylvain nous a parlé en commençant de Vendredi et de Robinson Crusoe, en nous disant que Robinson était toujours considéré comme le maître et Vendredi comme l'esclave. Il y a le très beau roman, très foisonnant, de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, qui est très épais. Mais comme on est aussi un festival qui s'ouvre cette année beaucoup sur la littérature jeunesse, il en a fait une version littérature jeunesse qui s'appelle Vendredi ou l'enfance sauvage, que moi j'ai lu, il doit y avoir un peu plus d'une quarantaine d'années, mais qu'on peut toujours conseiller aux adolescents. Et où d'ailleurs Vendredi, à un moment donné, retourne à la terre, dans une caverne, pour en ressortir après. Et c'est lui qui enseigne Robinson dans cette histoire. Et c'est lui qui, quelque part, en devient le maître de Robinson en l'enseignant, en lui apprenant sa sagesse.
Effectivement, le Robinson et Vendredi, c'est une matrice, en fait, d'imaginaire. Et d'imaginaire qui a été modelé différemment par des auteurs qui sont évidemment postérieurs à Defoe et qui ont cassé, disons, la supériorité de Robinson sur Vendredi, donc dont le texte de Michel Tournier, qui a été analysé précisément par Gilles Deleuze.
Bonjour. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de voyager plusieurs fois dans un pays où les ancêtres comptent énormément, ce qui est l'île de Madagascar, et des Malgaches, d'ailleurs, un psychanalyste disait, les Malgaches ne croient pas à la mort, ils croient aux morts. Et ce que je voudrais dire à leur propos, c'est qu'il y a toujours des tombeaux qui sont somptueux quand eux, quelquefois, vivent dans des petites cases, très, très, très humbles, très modestes. Et oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, je ne sais pas quelle est votre expérience à ce sujet-là, mais les ancêtres, eh ben, on les voit. On les voit. Je veux dire, vous êtes là, à la tombée de la nuit, vous sentez des présences, vous voyez des personnes, et en fait, vous regardez bien, ben non, c'est un buisson. Mais l'île, comment dire ça, est habitée. Et alors, est-ce que c'est la force de la croyance collective? Est-ce que c'est le rhum? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même une présence qui est quasi tangible, celle des ancêtres. Alors, je ne sais pas ce que les personnes qui sont là, vous êtes écrivain, est-ce que vous avez eu des expériences comme ça? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de, j'allais voir les fantômes, puisque vous parliez de fantômes.
Alors, comme pour ma part, les fantômes, je ne les pense pas du tout de façon sensible. Je les pense plutôt, disons, comme des présences qu'on a à l'esprit. Des présences qu'on a à l'esprit, et ces présences, on peut les matérialiser grâce à la photographie. La photographie a évidemment un rôle majeur dans l'ancestralité. Elle a succédé à la peinture, mais sauf que la photographie, c'est quand même plus, elle s'est beaucoup plus démocratisée que la peinture ne s'était démocratisée, puisque les portraits des ancêtres au musée des Beaux-Arts ou n'importe où, on peut trouver ce genre de choses. Mais c'est ce qui donne, par exemple, avec la photographie, les hôtels des ancêtres au Vietnam. Des pièces qui sont consacrées aux ancêtres, qui sont des pièces qui n'ont pas d'autre destination ou vocation que le recueillement devant les ancêtres, et qui sont très impressionnantes, en fait. Parce que les maisons ne sont pas forcément... ce ne sont pas des palais, les maisons peuvent être modestes, et il y a une place très importante accordée aux ancêtres. Mais je n'en sais pas suffisamment sur les pratiques, et je n'ai pas suffisamment de connaissances anthropologiques sur le Vietnam pour pouvoir en dire plus. Mais il y a toujours, on les rend présents, nos ancêtres. On les rend présents par plusieurs choses, par cet envoi de photographie par Benjamin Stora. Je ne sais pas, moi, le fait que je possède une montre de mon arrière-grand-père, dont je fais strictement rien, elle est dans un placard, mais bon, je la retrouve de temps en temps comme comme quelque chose qui appartient à mon grand-père et qui montre qu'il y a une forme de fétichisme. Il y a une forme de fétichisme dans le rapport aux ancêtres. Ou des choses qui sont d'aller se recueillir sur les tombes des uns des autres, et ça peut remonter évidemment très loin.
Merci. Moi, je voudrais abonder dans le sens que vous venez de dire, madame. Je viens de Jordanie, et je voudrais raconter quelque chose de personnel qui confirme ce que vous avez dit tous pratiquement sur les ancêtres. J'ai eu deux phénomènes dans ma vie. Je suis venu étudiant à Strasbourg en 1974 et j'avais toujours envie de fumer la pipe. Pourquoi ? Parce que j'étais seul dans ma chambre universitaire et je n'avais pas de compagnon, ni de compagne, ni personne. J'étais préoccupé par l'apprentissage de la langue française. Je faisais des études de lettres modernes. Et donc, il me fallait un compagnon et j'ai décidé un jour, j'avais un sentiment très fort en moi-même, de m'acheter une pipe, de fumer la pipe. Je ne savais pas. Devant le restaurant universitaire, il y avait un jeune homme, un peu dans le gabarit de notre modérateur. Et je lui dis, comment on fume la pipe, etc. Il me vend une pipe, il m'explique. Les années passent. Et je rentre en Jordanie, deux années après. Et je ne pouvais pas fumer devant mon père. C'est par respect, c'est comme ça. Mais un oncle à moi, le frère de mon père, me dit, écoute, maintenant tu es adulte, tu peux fumer. Et je refuse devant toute la tribu. Il y avait une douzaine de grands-oncles, etc., etc. Bon, bref, ça, c'est l'épisode. Je demande à mon père, mais papa, dis-moi, d'où me vient cette histoire des pipes? Et il me dit, ouvre telle boîte. La boîte de Vietnam. Et c'était la pipe de mon grand-père que je n'ai jamais connue. Ton grand-père fumait la pipe. Un autre épisode, je voulais toujours porter une petite bague dans l'auriculaire. Et je ne savais pas pourquoi. Bon, je me suis acheté une bague d'eux-mêmes. De temps en temps, je les porte. Je ne sais pas pourquoi, tantôt la main droite, tantôt la main gauche. Jusqu'à il y a 2 ans, où je reçois une photo de mon frère me montre 3 personnages ou 4 autour d'un vieux monsieur qui n'était autre que le père de ma mère.
Qui portait cette bague.
Il portait cette bague. Donc, alors que je n'ai jamais connu, on m'a jamais parlé, etc. Mais il y avait quelque chose qui se transmet comme ça. Et je peux raconter d'autres histoires comme ça, d'en plus finir. Donc, oui. il y a une certaine transmission, comme l'objet que vous venez de dire, la montre et autres. On a tous quelque chose, un peu de fétichisme et tout ça. Ou alors un comportement, on vous dit, ah, tiens, ton oncle, ton grand-père, ou mon frère, ou ma fille. Ça se transmet, je suis d'accord avec Elzebir aussi, dans ce sens. Merci. C'était juste un témoignage.
Je propose soit une ultime question, soit je vous invite à poursuivre la discussion avec nos auteurs qui sont là et qui sont là, disponibles avec leurs ouvrages. Donc à moins qu'il y ait une dernière question, profitez de ces moments avec eux pour continuer cet échange. Profitez-en et puis voilà, ça sera, on clôturera sur cette question. Merci monsieur.
Oui, vous avez parlé de Kate Biesin sur son livre « Nos ancêtres doubles de férocité ». Comme l'Algérie, on lui a souvent présenté des faux ancêtres qui étaient tout simplement des ancêtres de colonisation, c'est-à-dire les ancêtres arabo-islamiques qui ne le sont pas, en fait, et nos ancêtres les Gaulois avec la France. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous, quels sont, par Kate Biesin et des Aurès, hein, la région Constantine, Aurès, donc qui est une région linguistiquement un mélange d'arabes et de berbères, tamazirt, comme on dit localement. Alors, vous qui êtes de la région, Benjamin Stora aussi, Benjamin Stora, on sait qu'effectivement. Ses ancêtres, effectivement, sont de Constantine, mais linguistiquement, il est plus ou moins d'alijaphone, comme on dit maintenant, pas mélangé avec la langue arabe persan et la dalija, qui est un mélange d'arabe, de berbère, d'italien, d'espagnol, un petit peu comme le français s'est construit hein, à l'époque où ils ont créé la langue française. Donc, vous qui êtes de Constantine, vous situez où et vous situez où vos ancêtres? C'est ça que je veux surtout savoir, parce qu'il y a une forme d'autocensure sur cette chose, justement, sur les ancêtres et la langue et l'identité algérienne ancestrale. Quoi.
Bon, moi, je ne réfléchis pas en termes d'identité, en fait. Moi-même, je suis d'Alger, donc c'est un peu différent. Mais c'est comme quand on va sur le site Généanet en France et on voit que tel nom de famille, il est de telle région, tel nom de famille, il y en a plus dans telle région que dans une autre région, etc., etc. Bon. En Algérie, on le sait, il n'y a pas eu d'état civil avant une date assez récente avec des changements de nom, d'ailleurs. Il y a eu un problème, un gros problème d'état civil, ce qui fait que les gens ne se reconnaissaient pas dans les noms qui leur avaient été attribués par les employés de l'état civil français. Et il y a eu beaucoup de requêtes de changement de nom au moment de l'indépendance. Et puis ensuite, évidemment, il n'y avait pas seulement les noms des personnes, c'était aussi, il y avait même des gens qu'on appelait SNP au sens officiel sans nom patronymique. Donc, mais il y avait aussi la toponymie, donc il y a eu une période un peu compliquée au moment de l'indépendance où on disait par exemple anciennement la rue Michelet mais maintenant la rue Trucmuche. Et il fallait passer sans arrêt d'un langage à un autre langage. Certains ne connaissaient que le dernier nom des rues, certains ne connaissaient que l'ancien nom des rues. Donc bon, ça c'était affaire de génération. Et on peut trouver le même genre de choses. On peut dire, par exemple, ben voilà, si on prend le nom, par exemple, Boulbina, on va trouver que c'est originaire de Gigel, y compris quand les gens ne sont pas de Gigel. Et c'est rapporté à aucune identité singulière. C'est, voilà, c'est pas une identité, c'est autre chose. C'est une origine locale.
Merci. On va s'arrêter là-dessus, mais poursuivons les échanges après. Merci aux auteurs et merci au public.